À plus d'un titre, deuxième partie, bonjour à tous. Nous continuons donc aujourd'hui notre exploration de la tradition confucéenne en Chine. Avec vous aujourd'hui, Rémi Mathieu, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS, sinologue évidemment, et vous avez réalisé en compagnie donc de Charles Leblanc ce volume de la Pléiade consacré aux philosophes confucianistes. C'est un travail considérable. Ce volume donc contient évidemment les entretiens de Confucius, le texte fondateur. Également d'autres textes, je vais vous demander de m'aider. D'autres textes.
Certainement, il y a d'abord effectivement ce qu'on appelle les entretiens de Confucius, c'est-à-dire le Lunyu en chinois,
voilà,
qui a été compilé par les disciples du maître à partir du 4e siècle avant notre ère jusqu'aux environs du 2e siècle avant notre ère. Le deuxième grand texte est celui de Mencius,
voilà.
Mengzi en chinois.
Un disciple
exactement.
Important.
Le plus important peut-être, au regard de l'histoire du moins. Et puis d'autres auteurs beaucoup moins connus en France, dont je me dispenserai d'indiquer les noms. Mais le troisième est certainement le plus intéressant à mes yeux du moins. Il s'agit de Xunzi.
Voilà.
Xunzi est effectivement le continuateur direct de cette lignée, tout en étant un adversaire du précédent, de Mencius.
Voilà.
Il s'oppose sur une notion tout à fait importante et fort débattue dans la Chine ancienne, qui était celle de la nature humaine. La nature humaine est-elle bonne ou mauvaise? Telle est la question.
Oui, 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 on va y revenir. Donc, mais avec cet ensemble, on revient donc aux sources de la sagesse de Confucius. On peut toucher du doigt ou des yeux la subtilité de son esprit avant que ce corps de doctrine ne se fige en idéologie. Une idéologie qui sera d'ailleurs considérée au début du XXe siècle comme responsable du retard de la Chine. Le confucianisme aura connu quelques rares éclipses dans l'histoire de son influence profonde et marquante sur la Chine, notamment durant la période maoïste. Mais on voit aujourd'hui que cette influence fait retour, se confirme à nouveau. Et c'est donc particulièrement opportun aujourd'hui de publier cet ensemble. Ce volume de la Pléiade est donc bienvenu pour comprendre le sens de cet engouement renouvelé. Alors, on commence avec vous, Rémi Mathieu, donc par les entretiens de Confucius, le texte fondateur d'une certaine façon. Il a été traduit par Charles Leblanc, mais évidemment vous le connaissez parfaitement. Le premier chapitre de ces entretiens concerne l'étude.
Exactement.
C'est un thème important. L'étude, où là je cite le titre d'un article très intéressant que vous avez donné au magazine littéraire Rémi Mathieu dans ce dossier consacré à Confucius, 2500 ans de sagesse. L'étude ou l'art de ne jamais toucher au but.
Oui, non seulement l'étude est le chapitre 1, constitue le chapitre 1 des entretiens de Confucius, mais il constitue également le chapitre 1, le chapitre 1er du livre de Xunzi. L'étude est au centre, on peut dire, de la technique qui consiste à se perfectionner. L'expression même est se cultiver ou cultiver sa personne, selon la traduction qu'on adopte. Et pour ce faire, il est nécessaire de recourir à l'étude non seulement des textes qui deviendront plus tard les classiques, à l'époque ils ne s'appelaient pas encore ainsi, mais du moins ces textes sont fondateurs de la pensée chinoise, c'est-à-dire qu'ils constituent des références obligées, en quelque sorte, que tout homme de sagesse et tout lettré doit apprendre par cœur, et doit pouvoir commenter.
Et réciter.
Réciter, et bien entendu, on dit même psalmodier. Hein, là, il y a un terme chinois tout à fait spécifique à cet égard. Donc, ils sont extrêmement importants. Mais l'étude, au sens confucianiste du terme, ne se résume pas à une étude livresque. Elle est aussi une étude des relations humaines. Elle est surtout, presque au moins autant que cet aspect intellectuel qu'on vient de voir, une étude de la morale. Puisque le confucianisme est sinon avant toute chose, du moins autant qu'une doctrine philosophique, une doctrine morale et une doctrine politique. On voit que tous ces aspects
sont liés
profondément dans la mesure où à la fois c'est une apparition de la responsabilité individuelle, donc se perfectionner soi-même, se cultiver soi-même par l'étude et par d'autres pratiques telles que les rites, par exemple, mais également se conduire avec humanité vis-à-vis des autres hommes et constituer, autant que faire se peut, un gouvernement responsable, moralement et politiquement, évidemment, pour mener l'ensemble de la population vers son bien, vers son profit, disons.
Oui. Alors, je vais encore vous citer Rémy Mathieu dans la présentation de ce volume de la Pléiade consacré au philosophe confucianiste. Vous avez en une phrase dense parfaitement défini l'importance à la fois de Confucius et puis comment dire de l'époque et du contexte dans lequel il intervient. Et il interviendra par sa pensée et la tradition qui lui a fait suite. Au milieu, je vous cite donc, au milieu d'un monde qu'il pensait finissant, à l'orée d'un siècle qu'il imaginait plus que d'autres troublé, un sage proposa des idées neuves, susceptibles de redéfinir les relations entre les hommes, de fonder une morale stricte et de conduire les États vers le bien. Vaste programme.
Exactement. Mais programme qui, j'y insiste, s'est appliqué assez peu du vivant de Confucius. C'est tout le paradoxe. C'est-à-dire que c'est un homme qui est non seulement un intellectuel, si ce mot a un sens pour cette époque de la haute antiquité chinoise.
On disait un lettré plutôt.
Plutôt enfin, un lettré, ouais. Oui. Mais je veux dire intellectuel dans le sens où il réfléchit. Au monde oui. Des idées, il conçoit des
et
idées
neuves. Et au monde aussi dans lequel il vit.
Exactement, c'est un homme de son temps et dans son temps. C'est-à-dire qu'il a assumé des responsabilités non seulement administratives, mais politiques très élevées, puisqu'il a été ministre de la Justice, ce qui n'est pas rien à cette période où la Chine était passablement agitée par des troubles sociaux et politico-militaires. Mais il n'a jamais pu, en fait, faire appliquer les préceptes moraux et politiques, gouvernementaux qu'il proposait aux différents princes qu'il a visités. Par contre, sa doctrine, qui a été majoritairement adoptée, ou du moins qui a servi de référence pendant plus de 2000 ans en Chine, même s'il y a eu des moments où le taoïsme, d'une part, le bouddhisme, d'autre part, ont prévalu, eh bien, cette doctrine, donc, référentielle, a quand même servi en quelque sorte de boussole, à la fois pour la pensée, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas que les lettrés qui pensaient comme Confucius, mais également l'ensemble de la population qui indirectement y faisait référence, et d'autre part les institutions. Il faut bien se rappeler que les institutions de la Chine et d'ailleurs des autres pays qui ont dépendu à un moment ou à un autre de l'influence chinoise, je pense au Vietnam, à la Corée, au Japon, ont été également sous cette influence institutionnelle. Et enfin, le troisième point, même au plan religieux, la pratique religieuse en Chine, jusqu'à l'époque contemporaine, a été une pratique qui tenait compte des préceptes moraux de Confucius et de son attitude vis-à-vis du monde spirituel.
Oui, alors, son importance, on va dire, dans l'appareil de l'État et l'administration, c'est à partir de l'Empire.
C'est ça. Oui. À partir du milieu du IIe siècle avant notre ère, un grand empereur qui s'appelait Han Wudi, c'est-à-dire l'empereur Wu des Han, les Han étant la première grande dynastie de l'Empire. L'Empire a été fondé par les Qin, comme chacun sait, en 221 avant notre ère. Mais la première dynastie qui instaure en quelque sorte la civilisation chinoise telle qu'elle va rester, au moins institutionnellement, jusqu'à la fin de l'Empire en 1911, c'est la civilisation des Han. Mmh. C'est elle qui pose les bases institutionnelles, morales, d'organisation politique pour si longtemps. Eh bien, cette dynastie, donc, par l'intermédiaire de cet empereur Wu signifie le guerrier, va prendre comme penseur officiel, penseur d'État, idéologie d'État, la doctrine de Confucius. Il va en quelque sorte sacraliser non seulement le personnage, mais son œuvre. Donc on va à la fois rendre un hommage cultuel
un culte, oui.
À Confucius, et ce culte dure encore de nos jours, mais on va faire l'usage qu'on sait de ses entretiens, c'est-à-dire qu'ils vont servir de boussole, en quelque sorte, politique et morale, donc, comme toujours, à l'Empire et à l'ensemble de ses institutions. Chacun devant se réclamer de ce texte et de ses diverses interprétations jusqu'à ce qu'il serve même de, comment dirais-je, de texte de base pour le recrutement des fonctionnaires d'État, ce qu'on appellera beaucoup plus tard, après l'intervention
des mandarins.
Voilà, exactement, après l'intervention des missionnaires et puis des commerçants et des militaires occidentaux, les mandarins, selon un terme d'origine portugaise.
Ouais. Les missionnaires, d'ailleurs, au passage, par parenthèse, Rémi Mathieu, ils sont, et en particulier les jésuites, ils sont beaucoup intéressés à Confucius.
Alors, ils s'y sont beaucoup intéressés parce qu'ils n'avaient pas le choix, dans la mesure où...
Oui, c'était quand une porte d'entrée aussi.
Exactement. Quand ils sont entrés, il y avait deux, disons, pour faire simple, il y avait deux portes d'entrée dans la culture chinoise, auprès de la cour impériale, c'était d'une part les sciences. Les missionnaires voulaient démontrer aux Chinois qu'ils étaient savants, sous-entendu que les Chinois ne l'étaient pas. Et ils se sont assez vite rendus compte que la science n'était pas forcément du seul côté où ils l'envisageaient. Et deuxièmement, que ces braves Chinois ne savaient pas penser, ne savaient pas penser le monde et ne savaient pas ce qu'était Dieu. Alors là aussi, ils ont eu beaucoup de mal, et même un peu plus que beaucoup de mal, puisque, on le sait, l'influence du christianisme a été extrêmement limitée. Et donc, ils se sont très vite heurtés à une réalité objective difficilement contournable, à savoir l'importance considérable de la pensée confucianiste, donc à la fois de Confucius, mais également de tous ses disciples, non seulement ceux dont nous avons parlé, Mengzi et Sunzi, mais de tous ceux, et ils sont évidemment extrêmement nombreux, qui leur ont succédé tout au long de la longue histoire chinoise. Donc il a fallu qu'ils fassent avec, à la fois en respectant les préceptes de Confucius, piété filiale, respect des ancêtres, respect de la hiérarchie,
des rites, donc,
amour de ses parents, respect des rites, mais des rites qui, bien entendu, n'avaient pas grand-chose à voir avec la rituelle chrétienne, et puis un ensemble de valeurs sur lesquelles ils pouvaient ou bien avoir des accords d'aise, accord relatif, à savoir par exemple l'amour de l'étude ou le perfectionnement de soi ou le rechercher le bien d'autrui, et d'autres où l'accord était totalement impossible, en particulier l'idée d'un dieu unique qui est totalement étranger à la pensée chinoise traditionnelle.
Oui. Alors, je vais vous poser une question aussi sur la religion des Chinois, puisqu'on va parler des rites. Mais je voulais revenir donc au texte dont nous parlions, les entretiens. Vous dites dans votre introduction, Rémi Mathieu, que l'une des caractéristiques de la pensée de Confucius, c'est d'avoir repensé un certain nombre de notions qui existaient avant lui, comme justement l'observance des rites, comme la question de l'humanité, même si vous montrez que le mot est relativement récent et apparaît en quelque sorte à l'époque de Confucius. Et puis également donc la notion d'homme de bien. Qu'il a complètement repensé.
Oui, effectivement. Confucius a une formule assez célèbre parce qu'assez répétée, et par lui et par ses disciples et ses héritiers, c'est « je n'invente rien, je transmets ».
C'est ça.
Ce qui n'est pas faux objectivement, c'est-à-dire qu'il utilise des termes qui existaient avant lui, qui préexistaient dans l'histoire chinoise avant le 5e siècle, et qui préexistaient entre autres dans ses ouvrages qui seront qualifiés un peu plus tard donc de classiques, mais il leur donne une acception nouvelle. C'est-à-dire, par exemple, la notion de gène, ce qu'on traduit souvent en français par humanité ou vertu d'humanité, c'est-à-dire considérer l'autre, considérer autrui comme un autre soi-même, avec la formule elle aussi célèbre, tous les hommes sont nos frères. Eh bien, cette notion d'humanité, c'est lui qui lui donne toute son ampleur et tout son poids doctrinaire, même, peut-on dire, il la place au centre de sa doctrine. Pour ce qui est des rites, alors effectivement, il existait, bien avant Confucius, un ensemble de dispositifs rituels, en particulier liés au culte des ancêtres,
oui.
Parce qu'on sait c'était que c'est ça. La religion de base des Chinois, d'accord. Et ça continue à l'être, d'ailleurs.
Il y a un aspect aussi, pour ce que j'ai pu lire, hein, c'est une question un peu naïve, mais de religion civile, au sens où la religion romaine, par exemple, était...
Oui. Oui, donc il a utilisé à la fois cette pratique et surtout cette notion de rite à l'origine exclusivement religieuse pour...
Le mot, d'ailleurs, pardonnez-moi,
Oui.
désigne le vase sacré, justement, où
Exactement.
sont effectués les sacrifices.
Exactement.
Le
C'est
mot
le
li.
li,
Ouais.
c'est le li qui s'écrit en caractère chinois avec la clé du sacrifice, donc la clé qui indique qu'il s'agit d'une chose religieuse originellement. Donc il a utilisé et le mot et le concept, mais à un usage qui, lui, est purement civil, c'est-à-dire dans les relations entre les hommes. Et c'est cette pratique du rite qui constitue un autre pilier de la pensée confucianiste, qui sera d'ailleurs plus qu'un pilier, qui sera le centre d'une doctrine de cet autre héritier dont je parlais, Xunzi, qui en fera la base, lui, de
Oui.
sa propre théorie. Et le rite est ce qui lui paraît totalement indispensable dans les rapports entre les hommes. C'est-à-dire que ce qui fait l'harmonie d'une société, ce qui rend possible les rapports humains, c'est qu'ils soient ritualisés. Et s'il n'y a pas de rite, alors la violence, d'une part, ou au contraire, l'amour, s'exprime d'une façon désordonnée et aboutit à un désordre, ou désordre individuel, ou désordre social, qui nuit et à l'harmonie de l'individu et à l'harmonie de la société. Donc il insiste avec une force extrême sur l'importance de ce rite, qui est également, par ailleurs, une forme d'éducation de tout individu, et en particulier des enfants, puisque les enfants commencent dès leur plus jeune âge à apprendre, à étudier les rites, de façon à savoir comment se comporter dans toutes circonstances. Et ce, non seulement dans un cadre religieux que nous évoquions à l'instant, mais dans tout autre cadre, qu'il soit civil, militaire ou autre.
Oui, donc derrière cette attention portée au rite, il y a évidemment l'idée chez Confucius donc de former une société du respect, de l'harmonie aussi, l'idée de l'harmonie, mais c'est aussi une reconnaissance de la nature extrêmement hiérarchisée de cette société aussi.
Alors c'est une chose qu'on lui a beaucoup reprochée, mais comment reprocher à Confucius de raisonner dans le cadre d'une société qui est la sienne? De la même façon qu'on a reproché à Aristote d'accepter l'esclavage.
Il y a peut-être
Bon,
l'humanité qui vient
oui,
pondérer un peu,
exactement, mais
on va le voir.
c'est une humanité hiérarchisée.
Ouais.
Je reviens un petit peu en arrière sur Aristote. Je veux dire que ce qui prédomine chez Aristote, c'est bien les différents textes qu'il a proposés sur les analytiques, sur la rhétorique, sur la métaphysique, etc. Et l'esclavagisme est quand même un aspect qui s'imposait à lui et sur lequel il n'avait pas
Non.
suffisamment de recul
Il était
pour le condamner.
plus inspiré par la mélancolie de l'homme de génie que par ses questions.
Probablement, probablement. Mais Confucius, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il évoluait dans une société par rapport à laquelle il n'avait pas suffisamment de distance, ni en termes de temps, ni en termes de distance géographique, pour s'interroger sur des données premières. Donc il faut bien avoir cela présent à l'esprit.
Mais ça, c'est
Alors,
peut-être aussi, oui, vous vouliez
je vous en
ajouter,
prie, non?
non, c'est peut-être aussi ce qu'on retrouve encore aujourd'hui dans l'aspect extrêmement ritualisé des relations entre les Chinois. Bon, ça va jusqu'à la caricature hein, dans notre vision occidentale, mais
Oui, mais nous en avons
c'est...
précisément une vision caricaturale parce que pour nous, le rite est sorti de notre pratique, ou quasiment. Ou du moins chez nous, le rite est réduit à la portion congrue. C'est-à-dire qu'on estime que ça n'est pas utile, que ça ne sert à rien, que ça n'a
Oui,
pas de sens.
il y a même eu un mouvement contre ça, on va dire.
Exactement. Le mouvement libératoire hein, des années 60-70 consistait à dire tout cela
Les conventions,
n'est qu'une pure convention. Cela n'a pas de sens et les vrais rapports entre les gens se dispensent du rituel. Quelle erreur! Quelle erreur! C'est-à-dire qu'effectivement, c'est parce qu'il n'y a pas de rite qu'il y a une violence des sentiments, une violence des comportements et une violence également de l'amour. Je veux dire par là que on prend toujours l'exemple de la haine en disant que la haine entre les gens doit pouvoir être tempérée par cette politesse qui nous paraît exquise chez les Chinois et beaucoup moins chez nous. Mais il n'y a pas que ces sentiments négatifs, les sentiments positifs également. Il y a des phrases tout à fait intéressantes de Confucius à propos de l'amour pour son fils. Dieu sait s'il aimait son fils, dont on apprend d'ailleurs la façon dont il l'éduquait à l'amour des classiques, mais il apprend également qu'il faut une distance entre le père et le fils, parce que sans cette distance ne naît pas le respect, à la fois le respect de soi, le respect d'autrui, le respect de la hiérarchie, le respect de celui qui va être un ancêtre, et le respect qu'un père doit à son fils. Donc on voit bien que les notions de rituel s'appliquent à des situations totalement différentes, que cela ait du deuil. Cette situation est extrêmement bien connue des ritualistes. Le deuil est tout à fait important, bien sûr, dans la pensée chinoise. Du deuil, donc, aux moments les plus joyeux de notre existence, il faut qu'il soit pondéré par des rites. Mmh. Et c'est ce qui fait effectivement qu'une société peut déboucher sur un fonctionnement, vous l'avez dit, fort bien, harmonieux. Et ce terme d'harmonie, re en chinois, est précisément le terme qui est utilisé par le gouvernement chinois actuel pour décrire la situation politique qu'il vise à instaurer dans la Chine contemporaine.
Tiens, tiens.
Avouez que ça ne manque pas de sel.
Mais oui, oui, oui. Alors revenons à Confucius. Je vais citer justement le chapitre qui est consacré, enfin un élément consacré au rite dans les entretiens. C'est d'ailleurs un chapitre qui porte un titre étrange, des 8 rangées de danseuses. Je crois, si je me souviens bien, que ça réfère à un épisode de sa vie, un piège qui lui avait été tendu. Enfin,
alors c'est pas dans... tant à lui qu'il a été
non,
tendu.
Non, au roi pour au lequel duc. Il travaillait,
voilà,
au duc.
Il travaillait pour le duc de Lou. Ouais. Lou était une ancienne principauté qui se situait au Shandong.
Où il est né, c'est sa,
exactement,
sa ville natale.
Ouais, c'est ouais. un homme de Lou. Lou passe d'ailleurs non seulement pour la patrie de Confucius, mais pour la seule région de Chine où l'on parle parfaitement et où on a une morale au-dessus de tout soupçon. Bref, fermons la parenthèse. Cette principauté de Lou était donc dirigée...
Noblesse par... oblige.
Exactement. Exactement. Était donc dirigé par un duc de l'époque auquel Confucius servait de conseiller. Et ce duc se vit offrir par son voisin et néanmoins ennemi, ou du moins par son voisin donc ennemi, la principauté de Qi, une troupe de danseuses, fortes à cortes, jeunes femmes, qui ne devaient sans doute pas se contenter de jouer de la musique, mais nous n'en dirons pas plus. Et le duc de Lou tomba sous le charme de ces 8 danseuses musiciennes et ne se préoccupa plus du tout du gouvernement de sa principauté, ce qui était évidemment le but de la manœuvre. Mmh. Et donc Confucius dénonça cette manœuvre et quitta immédiatement le duc en se disant que ce prince n'était véritablement pas à la hauteur et n'était pas digne de recevoir ses conseils. Il a eu d'ailleurs une formule assez plaisante à son sujet. D'ailleurs, c'était à l'occasion d'une autre anecdote où le duc se promenait avec sa femme sur son char, ce qui est tout à fait incorrect, vous en conviendrez avec moi. Et il disait « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui eut autant d'amour pour la vertu que pour une femme. » Et apparemment, le duc avait beaucoup trop d'amour pour une femme.
Alors, ce chapitre, donc intitulé « Des huit rangées de danseuses », c'est le chapitre 3. Alors, il y dit ben, « Un peuple sans roi », on en parlait à l'instant, « un peuple sans roi, mais qui accomplit les rites, est supérieur à un peuple sans rite où règne un roi. »
Exactement. Voilà. C'est parfait. Il n'y a rien à ajouter, si ce n'est peut-être tout de même qu'à la fois les confucianistes et une autre grande école de pensée qui seront les adversaires acharnés de Confucius et de ses disciples, les taoïstes, considèrent que la fonction princière, disons royale, pour être un peu plus dans nos modes de pensée, de référence, cette fonction est essentiellement représentative, on dirait symbolique. Mmh. C'est-à-dire que le roi, le prince, règne mais ne gouverne pas. Il n'agit pas. Il y a un terme chinois qui est tout à fait connu en philosophie, qui est Wu Wei, ne pas agir.
Oui,
ne pas agir.
Il est connu,
ce qui ne veut pas dire ne rien faire,
ouais.
Mais ce qui veut dire laisser les choses spontanément se mettre en place. Aussi bien le peuple qui peut agir par lui-même et trouver sa juste voie, que l'ordre politique de la principauté qui peut spontanément se situer sans que le prince lui-même intervienne. C'est le rôle des ministres d'agir pour faire que les choses aillent leur train. Mais le prince, lui, se contente, selon l'expression chinoise, de faire face au sud, nanmien, faire face au sud.
Oui.
C'est-à-dire regarder ses sujets assis sur sa natte et ne rien faire, c'est-à-dire ne pas intervenir dans les affaires.
D'ailleurs, vous le montrez aussi, vous en parlez, je crois qu'il y a un chapitre des entretiens qui est consacré à cette question, à la politique. Pour Confucius, la politique est une sorte de continuation de l'éthique et de la morale, mais par d'autres moyens.
C'est une mise en pratique de l'éthique, tout à fait. C'est-à-dire que cette philosophie, qu'on peut dire philosophie politique, est une philosophie où il n'entend pas modifier le système tel qu'il le connaît. On parlait à l'instant d'Aristote qui ne remettait pas en cause le système de l'esclavage, de Confucius qui ne remettait pas en cause la hiérarchie de la société chinoise. Eh bien, Confucius, malgré toutes ses idées neuves et malgré toute sa perspicacité, lui et ses disciples et ses héritiers n'ont jamais, absolument jamais, au cours des 2000 ans et plus, 2500 ans presque, de l'histoire chinoise qui ont suivi, n'ont remis en cause le système impérial, enfin le système royal de son temps et impérial par la suite. C'est une évidence sur laquelle il ne s'interroge pas.
Alors je le disais, ce qui peut pondérer cette soumission à l'ordre établi, on va le dire comme ça, à notre manière, donc c'est la notion d'humanité. Et vous rappelez, Rémi Mathieu, que le mot donc, est récent à l'époque de Confucius. Il est attesté, en gros, à son temps. Et il viendrait d'un mot qui signifie... alors, je ne connais pas le mot, hein, puisque vous le citez, vous allez vous en souvenir. Mais qui est d'un ancien mot, donc, il proviendrait d'un ancien mot qui signifie la bienveillance d'un noble à l'égard d'un inférieur.
Oui, alors les questions d'étymologie des caractères sont âprement discutées parce qu'elles sont passablement mystérieuses. C'est-à-dire qu'on connaît la forme de certains caractères dans la haute antiquité, on la connaît par les découvertes archéologiques qui datent de quelques années ou de quelques dizaines d'années, mais elles ne permettent pas toujours de retrouver l'étymologie exacte, c'est-à-dire le sens initial d'un terme. C'est d'ailleurs ce qui fait la difficulté de la langue chinoise archaïque, c'est que ce terme n'est compréhensible que dans un certain contexte et à une certaine époque. Donc le sens qu'avait le mot « gène », le mot « humanité », à l'époque de Confucius, est clair, puisque Confucius en parle à plusieurs reprises. Il revient plusieurs fois sur ce qu'il entend par là, mais la signification de cette expression est passablement obscure. D'autres étymologistes estiment que c'est la relation qu'ont deux hommes entre eux sur un pied d'égalité.
Oui.
Puisque le caractère s'écrit avec deux éléments. D'une part, la clé de l'homme, et d'autre part, le chiffre 2. C'est-à-dire qu'il désigne deux individus hiérarchiquement égaux. Ce qui est une des idées neuves donc, de Confucius, c'est-à-dire que tous les hommes sont supposés égaux en tant qu'hommes dans le genre humain. Il y a certes des inférieurs et des supérieurs, puisque la société est une société de classe, strictement hiérarchisée, vous venez de le dire, mais il n'empêche que tous font partie de la grande famille humaine. Et c'est à cet égard, c'est dans ce cadre que cette... amour, c'est le mot amour qu'il emploie. Amour d'autrui peut se déployer.
Oui. Alors, le chapitre dans les entretiens, on n'aura pas pu dépasser les entretiens, mais je m'en doutais un peu. On renverra les lecteurs à toute la riche documentation et tous les textes qui suivent, donc, que vous avez évoqués au début, Rémi Mathieu. Mais le chapitre donc, des entretiens qui est consacré à l'humanité est un très beau titre. C'est « Habiter l'humanité ». Et je voulais citer pour finir, puisque lui-même dit qu'il y a une seule maxime qu'on pourrait mettre en pratique toute sa vie. Donc c'est dans ce chapitre, le maître répond « Il pourrait seulement s'agir de la mansuétude, n'est-ce pas ? Ne pas imposer aux autres ce qu'on ne désire pas pour soi-même. »
Exactement. Je crois que c'est la doctrine, c'est la phrase de Confucius qui résume peut-être le mieux l'ensemble de sa doctrine.
Merci Rémi Mathieu pour toutes ces lumières, pour ce considérable travail de traduction et de mise en perspective, et puis aussi de d'édition critique, hein, parce que il y a beaucoup de notes donc qui permettent de guider la lecture donc de ce volume de la Pléiade consacré aux philosophes confucianistes, et donc voilà, une lecture à conseiller aujourd'hui en particulier.